Eliane Lafont, the queen of French photojournalism in New York. Troisième épisode, ne quittez pas, je vous le passe. On ne parle pas de salaire. Je ne suis pas employé de Gamma, affirme Eliane Lafont. Elle se paie au pourcentage sur les photos que Gamma lui envoie dans des enveloppes chaque semaine pour les vendre à la presse américaine. C'est l'époque où les agences Black Star et Magnum travaillent en commande pour Time et Newsweek. Les photographes de Gamma partent en reportage en spéculation. Et donc leur photographie arrive à New York avant que les magazines aient décidé de passer une commande. Avec une première garantie de 5 000 $ par mois, la carrière d'Eliane démarre en flèche.
J'ai dit bon, d'accord, ok, oui, ça m'intéresse, d'accord, j'apprendrai. C'est très bien, ça me plaît. Attends, je ne suis pas, on ne parle pas de salaire, je ne suis pas l'employé du Baron Roth. Et d'ailleurs, je ne voulais pas l'être. Je n'ai jamais voulu être salarié dans ma vie. Et les quelques fois où j'ai été salarié, ça n'a jamais marché. Parce qu'il faut que je fasse des choses de ma façon. Et déjà petite d'ailleurs, c'était comme ça. Étant donné que je me souviens très bien, et ma mère me le rappelle souvent, que pour le jour de mes 10 ans, mon père, dans une famille fauchée, évidemment, il n'y avait jamais de grand cadeau, mais mon père me dit, qu'est-ce que tu veux pour ton cadeau d'anniversaire? Et je lui dis, je veux que ni toi, ni maman, vous ne me donniez plus jamais d'ordre. Et mon père a dit, d'accord, ok, on ne donnera plus d'ordre. Donc je suis déjà, à l'âge de 10 ans, déjà quelqu'un d'indépendant, qui n'aime pas les ordres. Mais attends, ça ne veut pas dire que je ne donne pas les ordres, mais que je ne suis pas disciplinée. En même temps, je suis disciplinée. Mais il faut que ce soit ma discipline, ma façon de voir les choses, il faut que ce soit comme je veux. Ce n'est pas que je suis imperméable aux conseils des autres, mais je veux écouter et les transformer à ma façon. Donc Hubert ne m'a pas proposé d'être son employé. Et donc, comment est-ce que je vais me payer? Je vais me payer à la vente des photos. Donc, Hubert rentre à Paris et m'envoie par la poste une enveloppe. Et il y avait dans cette enveloppe 7 ou 8 reportages avec des photographes qui, pour moi, le nom ne me dit absolument rien. Je ne les connais pas, puisque je ne connais que Jean-Pierre comme photographe. Raymond Depardon, Gilles Caron, Henri Bureau, Alain Dejean, Léonard de Rémy, enfin, des reportages. Je regarde les photos, c'était des tirages, hein. C'était des tirages en noir et blanc. Je trouve les photos belles, et surtout les histoires m'intéressent, parce que les photos s'accompagnaient d'histoires. Raymond, c'était l'Israël. Donc, à chaque fois, je suis aussi intéressée par les photos que je le suis par le texte. Alors, à qui je vais vendre ces photos? Je dis à Jean-Pierre, les deux grands magazines de l'époque, c'était Time et Newsweek. À un bloc, c'est-à-dire un bloc new-yorkais, il y a un marchand de journaux et de magazines. Je dis, je vais aller acheter Time et Newsweek. Donc, je vais acheter Time et Newsweek, je reviens et je regarde la masthead. Comment est-ce qu'on dit masthead?
L'ours.
L'ours. Je regarde l'ours. J'ouvre Time Magazine en premier parce que j'avais une légère préférence pour Time Magazine. Les couvertures m'intéressaient plus. Newsweek était plus news, était plus politique. Mais Time faisait les deux. Il faisait la politique, mais il faisait également des grands sujets non politiques. Et ça m'intéressait. Les deux m'intéressaient, en fait. La politique m'intéressait, mais les grands profils sociaux, socio-économiques, tout ça me passionnait aussi. Donc, je prends d'abord Time Magazine, je regarde l'ours, je vois Henry Luce, donc Henry Luce est mort, donc c'est pas lui qu'on va appeler. Et puis, en dessous de son nom, il y a Henry Grunwald, le rédacteur en chef. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle Time Magazine, j'appelle Henry Grunwald, là encore, incroyable, la chance encore me poursuit. Bien que toute ma vie a été une série de chances, mais peut-être, on peut en parler plus tard, mais peut-être que je devrais appeler la chance autrement. Donc, une secrétaire répond. J'explique que mon nom est Eliane Lafont, je suis française. Je voudrais rencontrer M. Grunwald car je voudrais lui présenter les photos d'une agence qui commence, une agence française. Nous spécialisons beaucoup, nous faisons beaucoup de politique étrangère et j'aimerais beaucoup montrer donc les photos à M. Grunwald. Et la secrétaire, qui est devenue une amie par la suite, me dit, écoutez, ce n'est pas à Henry Grunwald que vous voulez parler à notre directeur de la photographie qui s'appelle John Durniac. Ne quittez pas, je vous le passe. Phrase énorme. Parce que comme le coup de fil venait de Henry Grunwald, Sa secrétaire répond, qui est devenue également une amie par la suite, Rita, elle répond, et a donc la secrétaire de Grunewald qui dit « Tu peux passer ce coup de fil à John ?» Donc, Rita passe John Durniac, le coup de fil venant de Grunewald, peut-être qu'il croit que je connais Grunewald, je ne sais pas, et je lui répète donc, mon nom est Eliane Lafont, je suis agence française, je voulais vous montrer, etc. Et il me dit « Venez ». Je dis « Quand ?» Il me dit « Maintenant ». Tout ça dans la même journée. Hein. Donc, je vais le voir dans l'après-midi. D'abord, je me trouve devant un personnage que j'aime immédiatement parce que j'ai beaucoup de coups de foudre. Hein. Les gens que j'aime, je les aime tout de suite et je les aime pour très, 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 très longtemps. D'ailleurs, j'ai mes mêmes amis. 50 ans plus tard, j'ai les mêmes amis. Et je crois que j'ai appris par mon père, qui était en même temps docteur et psychanalyste, à regarder les gens d'une façon un peu différente. Par exemple, je me rappelais toujours, quand j'étais petite, je disais à mon père, « Oh là là, j'aime cette personne, elle est tellement belle. » Et c'est mon père qui me disait, « Attends, on va parler, c'est quoi la beauté ? Viens, on parle d'abord de la beauté. » Donc c'est lui qui m'a fait remarquer la beauté, c'est aussi l'intelligence, c'est l'attitude, c'est bon. Donc je regarde ce personnage, John Durniac, grand, rouquin, avec une peau un peu rouge comme ça, avec des beaux yeux bleus, et très affable. Et une des raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de New York, c'est parce que je suis également tombée amoureuse des New Yorkais. J'aime leur attitude. Des gens simples, ouverts, tout ça évidemment est à creuser, hein. C'est pas, je ne veux pas dire que je ne veux pas en faire une caricature, mais l'Américain est extrêmement ouvert et prêt à tout, tout le temps. Avec un optimisme, l'Américain, son attitude est toujours, tiens, qu'est-ce qui va m'apporter ? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter ? Qu'est-ce qui... Donc, toujours ouvert. John a cette attitude, que je reconnais immédiatement dans quelques mots. Et donc, je lui dis, Eliane Lafont, etc. Et pendant que je lui parle, il regarde les photos. Il les regarde très lentement, très attentivement, et dans un silence absolument incroyable. Il regarde tous les reportages, il regarde les textes en travers, simplement les gros titres, mais les photos avec beaucoup d'attention, il retourne les photos, il lit le nom du photographe, il finit la pile, il regarde toutes les photos sans un mot, sans une question. Il repose la pile et dit « Mais vous êtes qui, vous ?» Alors je lui dis « Mais moi, je suis personne. Moi, je suis agent de photographe depuis hier matin, hein, depuis la semaine dernière. » Et bon, ça le fait rire, ça l'amuse. Il me dit « Mais parlez-moi de Gamma. » Voilà comment ça a tout commencé. Et là, encore une fois, chance extraordinaire, il me dit, je vais vous donner une garantie. Je lui dis, mais c'est quoi une garantie ? Il me dit, je vais vous donner une somme d'argent toutes les semaines, vous allez venir me voir, vous allez venir me voir que moi. Mais moi, je ne connais que lui, il est mon premier coup de fil. Donc, je me dis, assez rapidement, je lui dis, attends, s'il croit que je connais quelqu'un d'autre, ça ne va peut-être pas me servir. Ok, donc je ne dis rien. Je ne dis pas qu'il est mon premier coup de fil et je ne connais que lui. Donc je ne dis rien. Je dis, bon d'accord, combien de garanties ? Et il me dit, $500. Et j'ai encore jamais vendu de photos de ma vie. Mais il me semble que $500, c'est pas beaucoup. Parce que, attention, je sais pas que Raymond Depardon est un grand photographe. D'ailleurs, à l'époque, il n'est pas vraiment un grand photographe. Je sais pas que Gilles Grand, pas encore. Je sais pas que Gilles Caron est un grand photographe parce qu'il l'est pas encore. On est tous des jeunes, on a tous le même âge. Mais quand même, je sens que j'offre là quelque chose de spécial. D'abord, ça va vite. Deuxièmement, il m'offre de l'argent tout de suite. Il veut que j'aille voir personne. Et puis, je vois bien que ces histoires-là, je vois bien que les photos sont bien. Je vois bien, les textes me plaisent énormément. Je vois bien que c'est bien tout ça. Donc je lui réponds $5,000. Il me tend la main avec, en éclatant de rire. C'est un grand, gros, jovial personne. Il me dit, vous allez aller très loin. Il me serre la main, il me dit, vous avez un deal. Je rajoute à John, attendez, les 5,000, c'est pas pour que vous achetiez les photos, c'est pour que vous les voyez en premier, parce que c'est ça qu'une garantie. Alors ça l'a beaucoup fait rire tout ça. On a commencé comme ça. Donc, j'ai eu une chance incroyable. Parce que pendant des mois, je suis... J'allais voir Time Magazine, John Durniac, donc le directeur de la photographie, pas ses assistants, toutes les semaines. Et il m'a présenté à son art directeur. Il m'a dit, est-ce que vous savez comment on fait un magazine ? Je dis, non, absolument pas. Il dit, ça vous intéresserait de venir avec moi en salle de rédaction ? J'ai dit, oui. Donc il me présente son art directeur. Donc, sous mes yeux, ils mettent en page les photos que je leur vends. Tu te rends compte de l'école ? Tu te rends compte ?
Fabuleux.
C'est mieux qu'ICP. Hein. Ah oui. Je raconte toujours ça aux élèves d'ICP en disant c'est dommage que les choses ne se passent plus comme ça maintenant, parce que ce que vous apprenez en 3 ans à ICP, moi je l'ai appris en quelques mois à Time Magazine. Donc je rentre à la maison, j'appelle Hubert et j'ai dit nous avons 5 000 $ par mois sans vendre les photos. Il est scotché. Il m'a dit mais tu es incroyable, mais c'est incroyable. C'est incroyable. 5 000 $ sur lesquels je faisais 30%. Parce que pour moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement confortable avec l'argent. Ce n'est pas super important, mais c'est important. Et je n'ai aucun problème à parler d'argent, à demander de l'argent, à exiger de l'argent. Aucun problème, aucune culpabilité, aucune gloire, aucun orgueil, non. C'est très naturel pour moi. Et très rapidement d'ailleurs, John va m'appeler Madame Double Space. Parce qu'il y avait d'autres agences avant nous, hein. Blackstar, Magnum était là déjà. Mais ils avaient un prix à la page. Et moi, j'ai doublé ces prix à la page. Parce que j'avais l'impression, encore une fois, qu'on leur apportait quelque chose de nouveau, de différent, de frais avec des jeunes photographes. Je ne connaissais pas l'histoire de Blackstar et de Magnum. Je ne connaissais pas du tout l'histoire. Je ne savais pas qu'ils avaient des photographes remarquables. Mais il me semblait que nous étions remarquables et que nous étions jeunes et nouveaux. Donc j'avais estimé que tout ça, ça valait un prix. D'autant plus que ce n'est jamais eux qui nous passaient les commandes. J'arrivais avec des histoires toutes faites. Donc c'est quand même extraordinaire, ça. Blackstar, oui. Magnum, oui. Mais les photographes travaillent en commande. Pas nous. Nous, le temps que les Américains se décident à envoyer leurs photographes en Israël, on était déjà de retour avec les photos légendaires avec des tirages devant sur leur bureau. Donc tout ça, au bout de quelques jours, j'ai compris. Quand John m'a dit « Est-ce que vous voulez que je vous montre comment on fait un journal ?»« Qu'on vous montre comment on fait un journal ?»« Oui. » »« On va donc avec nos tirages, dont ils font les Xerox. » Dont ils font les tirages, qu'ils mettent sur le mur. C'est comme ça que j'ai appris à éditer sur le mur. C'est les Américains qui m'ont appris à travailler. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas éditer sur un écran. Mais par contre, j'édite très bien quand je mets les photos sur le mur. Parce que tout, il y a tout là, tout est là.
Comment ça se passe avec Newsweek et les autres journaux? Comment tu, parce qu'un seul magazine ne suffit pas.
Je n'ai qu'un client à 5 000 $ par mois, plus les photos que je lui vends au fur et à mesure. Alors, comment est-ce que je lui vends les photos? Comment est-ce que je sais le prix de la photo? Je lui demande, mais combien tu payes ça? Combien tu payes ça, Blackstar? Et il a eu le tort, peut-être. En tous les cas, je commençais un petit peu à me très bien me démerder. Et puis, j'étais très provocante. Et les Américains aiment beaucoup ça. Les Américains aiment qu'on leur rentre dedans. Ils adorent ça. En tous les cas, et attention, je n'avais affaire qu'à des hommes, hein. Et jamais, je vois maintenant le Me Too Movement, hein, le Me Too Movement, tu sais, moi aussi, etc. Jamais, 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 dans toute ma jeune carrière, entourée d'hommes, le directeur artistique, les journalistes, parce que, après, je te raconterai la suite, je suis devenue très rapidement très amie avec les grands journalistes de Time Magazine. Pourquoi ? J'y reviendrai après. Donc, pour en revenir au prix, il me semblait que ce qu'on offrait n'existait pas et valait beaucoup plus cher. Donc je double les prix. Donc non seulement j'avais mes 5 000 $ par mois, mais j'avais tous les reportages. Et toutes les semaines, Time Magazine passe nos photos en politique étrangère. Pourquoi ? Ils avaient un système très lent. Il fallait des meetings pour décider où on allait à travers le monde. Si ça avait été un mensuel, j'aurais pas eu autant de succès. Mais on était avec des weeklies. Comment est-ce qu'il dit ? Weekly, avec des hebdomadaires. Donc toutes les semaines, j'amenais mon histoire qui se trouvait être l'histoire qui était en première page du New York Times. Donc ils achetaient, John achetait, bien sûr. Non seulement il achetait, mais on emmenait à leur directeur et sous mes yeux, on les mettait en page. Et pourquoi est-ce que je tenais à rencontrer les écrivains ? À l'époque, il y avait une différence. Les gens de la photo ne rencontraient jamais les journalistes. Et j'ai trouvé ça d'une injustice incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on avait affaire à des journalistes, des photojournalistes, donc, de Pardon, Lafont, Bureau, qui écrivaient des légendes extraordinaires. Lafont, les légendes de Lafont, les légendes de tous ces photographes-là. C'est pour ça que, quand Courbis a repris tout ça, j'ai dit, faites attention aux légendes de ces photographes, c'est des trésors. On a des trésors en photo, mais on a des trésors en texte. Donc je trouvais anormal qu'on ne laisse pas les photographes parlaient avec les journalistes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à Durniac de me... Et Durniac me disait toujours, non, la façon américaine, on sépare la photographie des textes. J'ai dit, non, ça c'est anormal. Et comme c'est Grunewald que j'avais appelé en premier, je dis à Durniac, je veux parler à Grunewald. Je veux lui expliquer pourquoi il a tort. Parce que les textes étaient dominés par le Grunewald. C'est Grunewald qui décidait de la dernière photo. Mais il décidait du dernier texte. Donc c'est lui qui avait la main sur les deux. Il laissait beaucoup Grunewald aimait beaucoup Durniac. Mais c'est quand même lui qui choisissait la dernière photo. Mais surtout, ce qui me semblait complètement injuste, c'est qu'on écrive des textes sans faire attention à nos légendes. Et ça, non. C'était inacceptable par moi. Donc j'ai dit à Durniac, je veux rencontrer Grunewald. Durniac, lui, il n'a pas compris encore qu'on m'a passé le coup de fil directement. Je n'ai jamais raconté l'histoire du coup de fil direct. Et un jour, il dit oui, quand le moment se présentera. Et un jour, Grunewald dit à Durniac, mais c'est qui, Gamma? Pourquoi est-ce que toutes les semaines, maintenant, et beaucoup d'argent, c'est qui les gens de Gamma? Et Durniac lui dit, mais c'est Eliane Lafont. C'est vous qui me l'avez quelque part, c'est vous qui me l'avez présenté. Donc, Durniac me raconte l'histoire. Et je dis à Durniac, voilà, c'est le moment pour moi de me représenter à Grunewald, me présenter, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Donc là encore, rencontre extraordinaire, personnage extrêmement intelligent. Il me raconte d'ailleurs, il me fait raconter ma vie, mais qui êtes-vous, lui aussi? Les Américains adorent l'histoire d'où tu viens. C'est un pays des migrants. Hein. C'est pour ça que maintenant, avec Trump, ça me fait incroyablement gerber. Parce que tout ça, c'est des émigrants. Grunewald, c'est un juif autrichien. Tu vois ce que je veux dire? Donc avec Trump, c'est pour moi, c'est d'une douleur absolument... Bon, donc je raconte ma vie à Grunewald, qui me raconte la sienne. Il m'a raconté comment il avait commencé. Les Américains adorent quand on commence petit, qu'on devienne grand. Comment lui, il avait commencé? Il a commencé... C'est lui qui distribuait le courrier d'étage en étage. Tu vois? Donc une histoire comme la mienne, ça lui plaît vachement, tu vois, il me trouve sympathique. Donc je lui explique mon point de vue sur les textes. Je lui amène des textes. Je lui dis, regardez ce qu'écrit un tel sur telle histoire. C'est pas normal que votre écrivain s'en inspire pas. D'autant plus qu'il faut se rappeler qu'au Vietnam, par exemple, les journalistes très peu allaient au front. Les photographes, eux, étaient au front. Un mec comme Eddie Adams, Catherine Leroy, Simon Pietré. Ils avaient beaucoup plus de choses vues. Mais aussi dans leur tête, parce que c'est... Tu sais, pour être un bon photographe, il faut être quelqu'un d'intelligent. Nos photographes, c'est pas par hasard qu'ils étaient des bons photographes. Ils étaient extrêmement intelligents aussi. Donc je dis à Grunewald, pourquoi vous supprimez cette intelligence? C'est un autre, de même que la photographie amène quelque chose, le photographe doit amener quelque chose à vos écrivains. Jamais Grunewald n'a accepté. Mon rêve, c'était d'avoir les photos et les légendes écrites. C'était mon rêve. Mais de mon expérience à Gamma et Sigma par la suite, je n'y suis jamais arrivée. Par contre, j'ai rencontré à Perpignan cette année une jeune photographe qui a eu le visa d'or de la Vigrie, qui m'a dit qu'elle travaillait en binôme avec un écrivain. J'étais fascinée. Et qu'au New York Times, ma Bible, hein, pour moi, New York Times, c'était ma Bible. Je lisais religieusement le New York Times tous les matins. Et c'est encore ma Bible aujourd'hui. Qu'elle maintenant pouvait, la personne qui écrit les textes avec elle, pouvait donner ses textes au New York Times. Je l'ai regardée émerveillée. Je dis, ben voilà, il a fallu 50 ans. Moi, je n'y suis jamais arrivée. Je suis arrivée à ce que les textes des photographes influencent l'écrivain. Il devait lire les textes. Mais jamais je n'ai pu passer les textes de mes photographes avec leurs photos. Je n'y suis jamais arrivée. Dans les grands magazines, hein, dans les plus petits magazines, évidemment, mais à Time et Newsweek, jamais. Alors, comment est-ce que j'ai connu Newsweek? J'ai connu Newsweek parce qu'au bout de quelques mois, je reçois donc un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Tom Orr et qui me dit, je suis le directeur de la photographie de Newsweek et je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous venez jamais me voir? Je dis, mais d'abord, vous ne m'avez jamais téléphoné et ensuite, j'ai un contrat avec Time Magazine. Venez, nous allons parler. Bon, donc j'y suis allée, et comme tu le sais, les contrats, c'est là que pour être cassé, hein, c'est jamais là pour être vraiment suivi. Donc, il m'a dit, combien est-ce que vous donne Time Magazine? Je vous donne plus. Je dis, non, on va pas marcher comme ça. Non, je veux pas travailler comme ça, c'est pas mon style. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon contrat avec Time Magazine. Je ne veux de contrat ni d'un autre. Finalement, je n'ai pas besoin de contrat. Ça ne me sert à rien. Je sais maintenant ce que valent mes photographes, ce que valent les photos. Tout ça, c'était quelques mois plus tard. Hein, donc, j'avais après, c'est vite. Je suis retournée voir Durniac et j'ai dit à Durniac, je veux arrêter le contrat. Ça ne me sert plus à rien. Si je veux venir te voir en premier, on n'a pas besoin de contrat. Il m'a dit, mais tu vas perdre les 5000 dollars. Je lui ai dit, non, tu vas le retrouver dans la facture. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question, je veux maintenant gagner le plus d'argent possible. Donc c'est à celui qui me payera le plus. Mais je ne veux pas dire à Niosé combien tu me payes. Donc je vais faire ça histoire par histoire, c'est tout. On va bien voir. Est-ce que tu tiens à cette histoire? C'est temps. Et dès que tu m'auras dit ton prix, j'irai voir Niosé pour voir s'il ne veut pas me payer plus. Et s'il veut me payer, je reviendrai à toi. C'est, en fin de compte, ce sera celui qui me payera le plus. Et comme je n'ai aucun problème avec l'argent, ce système, si tu veux, il n'est pas facile à jouer par plein de gens. Tu vois, il y a plein de gens qui ne supportent pas la tension. Mais pour moi, c'est aucune tension. C'est comme boire un verre d'eau. Et encore, j'aime pas tellement l'eau. C'est très naturel. C'est très, très naturel pour moi. Donc, on a gagné très vite beaucoup d'argent. Et je travaillais avec les deux magazines.
Les prix, c'était quoi?
Les prix, c'était phénoménaux. Selon l'intérêt, ça pourrait être 10 000, 15 000, 20 000 euros pour une histoire qui très souvent, je vendais les histoires. Hein. Je n'ai jamais vendu les photos. En tous les cas, pourquoi est-ce que je vendais très cher? Je vendais très cher parce que les photographes partaient faire des histoires. Que le magazine en fasse une double page, c'était leur problème, c'était pas le mien. Moi, mon photographe, il avait travaillé 8 jours dans de telles conditions, il avait construit une histoire dans sa tête, on avait édité l'histoire en fonction de la façon dont il l'avait construite, c'est ça que je vendais. Donc voilà pourquoi il m'appelait Madame Double Page. C'est parce que je vendais jamais au prix de la page, je vendais à l'histoire. Donc, dans cette histoire, j'ai incorporé l'exclusivité, j'ai incorporé combien de temps le photographe avait travaillé, combien de temps il avait dépensé pour ses frais, combien ce magazine-là voulait cette histoire. Donc, j'avais des prix faramineux pour l'époque, mais faramineux, évidemment, pour maintenant. Plus personne, maintenant, vend une histoire à 40, 50, 60 000 dollars. Personne. Ou alors, tu es devant l'assassin du président Reagan. Tu vois, alors là, il n'y a pas de prix.
Donc, tu vends un Time à Newsweek, mais bon, ça ne suffit pas. Alors, tu t'organises comment pour vendre plus, évidemment?
Alors, l'appartement, très vite, est trop petit, évidemment, parce qu'on fait tout ça dans notre appartement. Donc, dans mon building, il y a un appartement au rez-de-chaussée qui se libère. Donc, je le prends. Et surtout, je prends, parce qu'évidemment, toutes ces photos devenaient des archives. Hein, de l'instant où elles étaient passées dans le magazine, je n'avais pas encore tellement de reventes, parce que je n'avais pas tellement de clients non plus. Les clients sont arrivés au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé à engager mes premières personnes de staff, si tu veux. Et les deux premières personnes de staff, j'ai engagé, c'était un garçon et une fille, Jim Rohrig, qui bien plus tard, nous quittera et fera l'agence Outline. Et Michel McNally, qui bien plus tard, nous quittera et ira travailler d'abord à Fortune Magazine comme directeur de la photographie et ensuite au New York Times comme directeur de la photographie du Daily.
Ces podcasts ont été enregistrés par Michel Puech le 26 septembre 2018 à Issy-les-Moulineaux et le montage mixage est de Jean-Louis Vinet. Retrouvez tous les articles d'Aloeil sur Eliane Lafont et Jean-Pierre Lafont sur le site Aloeil www.a-l-oeil.info au singulier. Et puis vous pouvez écouter sur France Culture la magnifique émission de Aurélie Charron, l'expérience qui raconte le raid de la Patagonie à l'Alaska avec Eliane Lafont et ses copines. Vous pouvez également écouter, regarder, lire Génération Gamma, le feuilleton des créateurs de l'agence que nous avons déjà diffusé. À bientôt !